Vous voyez sur le memento le titre, la foi, une question de quantité. Point d'interrogation, parce que la question pourrait effectivement se poser, puisqu'aujourd'hui, tout se mesure, tout se quantifie au millimètre près. J'ai fait une analyse de sang dernièrement et j'ai reçu 5 pages de résultats. Tout ce qui se passait à l'intérieur de mon petit corps, enfin de mon grand corps malade. Le taux de la quantité de vitamines, la quantité de cholestérol, bon ou mauvais, de triglycérides, tout ça en milligrammes ou en autre unité inconnue. Et pour une fois, j'ai réussi mon examen sanguin. Yes. Mais aujourd'hui, tout se mesure. On a mesuré aussi le nombre de bulles dans une bouteille de champagne. Je vous le dis, 250 millions. Bref, tout se mesure. Parce que dans notre monde, il semble qu'il soit important de connaître la quantité de toute chose. Mais la foi, comment la mesurer ? Par un sondage, peut-être ? Alors, ça peut être utile, les sondages, mais peut-être pas assez précis. Puis il y a des gens qui ne savent pas répondre aux sondages, qui remettent tout sur leur femme. Alors, et quelle unité choisir pour la foi ? Le kilo ? La lourdeur de la foi ? Le litre ? Le joule ? L'énergie de la foi ? Le watt ? Pour mesurer l'intensité de la foi ? Mais la question qui se pose par rapport à la foi n'est pas tant de savoir comment la mesurer, mais de savoir si elle rentre dans la catégorie des choses mesurables, et surtout pourquoi il faudrait mesurer la foi, ou quantifier la foi. Est-ce que c'est important, la foi, ou plutôt d'en avoir plus ou moins ? Alors quand même, la foi aurait une certaine importance. Et deux paroles de la Bible pour nous convaincre de l'importance de la foi. Une parole de Jésus qui dit, en parlant de la fin des temps et de son retour, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Une phrase qu'il dit à ses disciples et qui les interroge sur leur foi. Et qui nous interroge ? Qu'en est-il de ma foi ? Dans quel état sera-t-elle ? Ou plutôt, dans quel état est-elle ? Puisque Jésus peut revenir d'un jour à l'autre. Et puis un autre passage dans l'épître de Paul aux Corinthiens. En somme, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et on sait que la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Mais quand même, la foi fait partie de ces trois choses qui demeurent. Alors, est-ce que nous avons ce genre de foi qui demeure ? Parce que cette foi-là va demeurer et doit demeurer. Une bonne question. Mais reste la question de la quantité de la foi, du niveau de la foi, grande ou petite foi, est-ce que ça compte en fin de compte ? Et pas seulement en fin de compte, mais aussi dans la vie. Est-ce que la quantité de la foi a une influence, par exemple, sur l'exaucement de mes prières ? Certains n'hésitent pas à faire le lien entre la quantité de foi que le chrétien peut développer et les bénédictions qu'il va recevoir en fonction de sa foi. Grande bénédiction si la foi est grande, petite bénédiction si la foi est petite. J'ai trouvé ça sur Internet. Vers une foi, non, une foi toujours plus grande. On dirait une présentation de Star Wars. Quelle quantité, Smith Wigglesworth. Bon, bref. Une foi toujours plus grande pour recevoir toujours plus. Et j'ose l'expression, croire plus pour gagner plus. Et pour en parler, nous allons, de cette quantité de la foi, nous allons... T'es trop vite. Voilà. Nous allons nous attarder sur deux passages de l'évangile de Luc que nous avons lu tout à l'heure, que Nanou nous a lu tout à l'heure. Et dans chacun de ces textes, c'est Jésus qui parle. Et quand il parle de foi, il sait de quoi il parle, Jésus, puisqu'il parle de la foi en lui. Et oui. Quand on parle de foi chrétienne, on ne parle pas de la foi en l'avenir ou en une force supérieure qui finira par tout arranger. Non, on parle de la foi en Jésus. « Celui qui croit en moi vivra », dit Jésus. « Celui qui croit en moi vivra », quand bien même il serait mort. Et quand Jésus nous parle de foi, alors on va tendre l'oreille parce qu'il semble être savoir de quoi il parle quand il parle de foi. Et le premier récit que nous avons lu parle de cette tempête sur le lac de Tibériade. Nous sommes tout au début du ministère de Jésus. Jésus est encore en Galilée, au nord d'Israël, avec les 12 disciples fraîchement diplômés ou fraîchement appelés par Jésus. Le choix de Jésus s'est posé sur eux. Et j'imagine que ces 12 disciples ne se connaissent pas beaucoup. à l'époque, ils n'ont pas vécu grand-chose ensemble. Il y a eu sur le sermon sur la montagne déjà, un sermon hors norme. Mais bon, maintenant, il y a une tempête qui se lève sur le lac de Génézareth et le grand rabbin Jésus, le grand discoureur devant l'Éternel, il dort au fond de la barque. Et les 12 disciples choisis d'en haut, enfin choisis par le maître, sont là très embêtés. Alors il faut dire à leur décharge que les tempêtes sur le lac de Tibériade sont extrêmement violentes. Elles peuvent se lever en 20 minutes. Le lac est à 200 mètres en dessous du niveau de la mer. Il est entouré de montagnes et quand l'air froid des montagnes arrive de l'est et rencontre l'air chaud du lac, c'est la tempête, c'est l'effet Venturi, je pense. Et les disciples ont peur, une grande peur, nous dit le texte de Matthieu, je crois, une méga phobie. Et à cause de tout cela, à cause du grand vent, du méga vent, nous dit aussi le texte dans l'original. Et nous sommes perdus, disent ces courageux marins d'eau douce. On est foutus, on mange trop, disait l'autre. Et on peut mettre ici tous les discours alarmistes que l'on entend de ci, de là, et surtout les nôtres, sur notre propre vie, je suis perdu. Ce qui, entre nous soit dit, est tout à fait juste. Ce n'est pas juste un discours alarmiste, mais un constat réaliste. Nous sommes perdus. Sauf que, dans cette barque, il y a quelqu'un qui s'est embarqué dans cette galère, et sa seule présence va faire toute la différence. Et Jésus se réveille malgré tout, et aura une phrase très difficile à accepter pour ces gens qui ont été choisis, les disciples qui ont été choisis. Il va leur dire, leur demander, où donc est votre foi ? Et il y a un peu d'ironie dans l'air. Où donc est votre foi ? Si elle est là, elle est bien discrète. Vous l'avez oublié sur la plage ? Il n'y a pas que le moral qui est dans les chaussettes. Et ils ont tous regardé les disciples, leurs sandales mouillées par les embruns, et ils devaient bien reconnaître qu'ils avaient la foi au fond des baskets. Et Jésus, dans l'évangile de Matthieu, pour le même récit, va leur dire « Votre foi est bien petite. Le vent est méga fort. La peur est mégaphobique. » Le calme qui revient après la tempête est, dans l'original, méga paisible. Tout est méga dans l'histoire, mais votre foi est bien petite. Et on se souvient de la traduction dans nos anciennes versions, toujours pour cette petite foi dans l'évangile de Matthieu, Jésus les appelle gens de peu de foi. Gens de peu de foi, avec une foi bien fragile, qui ne résiste pas aux intempéries de la vie. Et Jésus les malmène quelque peu, on pourrait même dire qu'il les chambre, ses disciples. Mais il calme la tempête malgré tout. Malgré cette foi de petite intensité, il calme la tempête. Et il les a choisis, malgré tout, ses disciples, ces gens de peu de foi. Et il nous choisit également, hommes et femmes de peu de foi. Et le deuxième épisode que nous avons lu, où Jésus parle de la foi, est dans le même évangile. Et là, on est un peu plus tard dans le ministère de Jésus. Il fait route vers Jérusalem avec ses disciples. On est à la fin. Et Jésus vient de leur parler, aux 12, donc, sur la question d'être ou de ne pas être une occasion de chute pour les autres. Il vient de leur parler aussi du pardon, de l'importance du pardon, de pardonner jusqu'à 7 fois dans la même journée. Et les disciples vont avoir une réaction étrange et ils vont demander à leur maître, qu'ils suivent depuis plus de 2 ans, « Augmente-nous la foi !» On y est dans la question de quantité de foi. Et on peut se demander pourquoi cette demande ? Pourquoi cette demande d'augmentation de la foi ? Peut-être en raison justement de l'enseignement sur le pardon qu'ils viennent d'entendre. Il semble que ce ne soit pas facile, même pour un disciple de Jésus, de pardonner jusqu'à 7 fois dans la même journée et qu'il faudrait encore plus de confiance dans la puissance du pardon pour le faire. Et c'est pour ça, augmente notre foi, notre confiance. Confiance que le pardon peut transformer les choses et les relations, foi en l'autre et surtout foi en Dieu qui regarde de près toute cette question du pardon. Augmente notre foi pour pouvoir pardonner, c'est possible. Ou peut-être Est-ce en raison de leur échec quelques mois plus tôt, lors de la guérison d'un garçon pris par une maladie sévère? Il nous est dit dans Luc 9 que le père de ce garçon, parce que les disciples n'avaient pas réussi à le guérir, à le sauver, s'adresse alors à Jésus en lui disant que ses disciples ont déjà essayé mais qu'ils n'y sont pas parvenus. Et Jésus va guérir le garçon, mais il va se tourner vers les disciples et il va leur dire: « Génération incrédule et perverse, jusqu'à quand devrais-je vous supporter ?» Incrédule ! Sans la foi, avec littéralement « sans foi », avec le « a » privatif grec, le « a » qu'on place en tête de mot pour marquer l'absence de ce mot dans la vie des gens. Sans foi, incrédule. Et Jésus parle de génération là, alors qu'il parle qu'aux 12, mais il semble qu'il élargisse son discours parce qu'on le sait bien, le manque de foi n'est pas un problème particulier aux disciples. Alors oui, c'est peut-être le souvenir de cet échec cuisant qui leur fait demander une augmentation, non pas de leur pouvoir d'achat, mais de leur pouvoir de foi. Toujours est-il qu'ils demandent une augmentation. Ils sont là, devant le patron, comme le syndicat des disciples réunis, et ils veulent une augmentation de quelques pourcents. Ils sont aussi dans le principe du toujours plus, de l'augmentation, et qui atteint même des domaines protégés. On pensait le domaine de la foi protégé, mais non. Alors on ne va pas faire le procès d'intention à ces disciples, ils sont ce qu'ils sont, ils ont comme nous de bonnes intentions et d'autres moins bonnes. Ils ont l'esprit bien disposé pour la plupart, mais la chair de tous est faible. Et ce qui est intéressant, c'est voir la réponse de Jésus. Comment Jésus va recevoir leur demande d'augmentation du pouvoir de foi? Va-t-il leur imposer les mains et tourner le potentiomètre de la foi qui se trouve au niveau de l'hypothalamus, comme chacun sait, ou de la glande hypophyse, comme dimanche dernier, je ne sais plus ce que c'était, pour l'augmenter en intensité, comme dans les films de science-fiction, comme une vulgaire ampoule lumineuse? Est-ce qu'il va leur demander de jeûner et de prier pour être débarrassés des impuretés de leur foi ou de s'inscrire dans un programme pour faire des exercices afin d'augmenter la masse musculaire de leur foi? De faire 40 pompes par jour, des pompes de foi, pour gagner en musculature, gagner des pectoraux ou de gonfler les pectoraux de la foi? Et je répondrai, comme ma grand-mère ardéchoise le disait, ma foi, non. Jésus n'est pas un gérant de salle de musculation. Il est le Fils de Dieu. Il est l'auteur de la foi et le consommateur de la foi, ou celui qui l'amène à sa perfection. Moi, dans les anciennes versions, il était marqué dans Hébreux 11, il est l'auteur et le consommateur de la foi. Je me suis dit, Jésus qui consomme la foi? Mais c'est dans le terme consommation, c'est dans la consommation finale, quand tout est accompli. Jésus, il est l'alpha et l'oméga de la foi, l'auteur et qui de la foi et qui l'amène à son plein accomplissement, à son plein développement. Jésus s'y connaît en foi, personne ne peut en douter. Et comme on peut s'y attendre, il va surprendre par sa réponse. Alors, si on s'y attend, c'est plus une surprise. Mais Jésus, il répond toujours, semble-t-il, à côté de la question. Et il va même peut-être décevoir quelques-uns qui préfèrent des solutions justement consommables directement, le prêt à penser, le prêt à croire. Et il va être un petit peu désagréable pour les citadins que nous sommes, enfin presque tous, et il va prendre des images de la nature et nous parler d'une graine de moutarde et d'un mûrier qui se jette dans la mer. Avec cette histoire que nous connaissons relativement bien. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. La petite graine de moutarde. Et le mûrier qui s'en va, avec un grand sourire, se jeter dans la mer. Jésus nous parle de ce grain de moutarde, la plus petite des graines qui donne, paraît-il, un arbrisseau, mais une très belle plante. Le moutardier est une très belle plante. Mais Jésus, après, dans un second temps, ne nous parle plus de plante que pourrait donner le grain de moutarde, mais d'un mûrier, une plante magnifique, paraît-il, avec de beaux fruits noirs, de belles feuilles qui peuvent abriter, vous savez quoi, des vers à soie. Et donc, une belle plante, mais une plante utile aussi, le mûrier. Et on peut se demander ce que signifie cette réponse. Est-ce un reproche que Jésus fait à ses disciples pour leur trop petite foi ? Qui serait encore plus petite qu'un grain de moutarde puisqu'ils ne parviennent même pas à faire bouger un pissenlit ? Est-ce que Jésus leur fait un reproche pour une foi trop petite alors que les disciples lui demandent d'augmenter leur foi ? On ne peut pas reprocher à quelqu'un qui demande que sa foi augmente, on ne peut pas lui reprocher que sa foi est trop petite. On tournerait en rond. Ce serait comme reprocher à celui qui nous demande de le sauver de la noyade de ne pas savoir nager. Et on imagine le noyé qui répond, mais c'est justement pour ça que je te demande de me sauver de la noyade. C'est parce que je ne sais pas nager. Il le dit en train de boire la tasse. Ça n'a pas de sens de reprocher à quelqu'un d'avoir une trop petite foi alors que cette personne vient de lui demander « Augmente-nous la foi ». Et on peut aussi se poser la question de savoir de quelle utilité serait d'arracher un mûrier et de le jeter à la mer. Aucune. Ce serait un acte tout à fait inutile et même antiproductif, avec à la clé la noyade des vers à soie. Le pourrissement des fruits dans la mer, ça ne sert à rien de lancer un mûrier dans la mer. Après tout, la mer, ce n'est pas un dépotoir. De même pour déplacer une montagne. La foi qui déplace des montagnes, comme on le voit dans Matthieu et puis dans 1 Corinthiens aussi. À quoi sert-il de déplacer une montagne pour la remettre un peu plus loin ? À quoi ça servirait de mettre les Pyrénées à la place des Alpes et les Vosges à la place des Pyrénées ? Et les Pyrénées à la place, je ne sais plus, des Vosges. Et alors ce sont évidemment des images de choses qui sont difficiles à faire, voire même impossibles, mais l'idée aussi d'inutilité est présente dans ces images. Comme le pasteur Corinne Acrim l'a fait remarquer quand elle est passée, quand je l'ai vue en 2007. Parce que ces deux images, et parce que ces deux images se rapportent à des actions extraordinairement inutiles, je crois qu'il faut aller chercher ailleurs que vers le reproche pour comprendre la réponse de Jésus. En tout cas, Jésus ne semble pas vouloir répondre à la demande d'augmentation de la foi de ses disciples, aussi bien intentionnée soit-elle. Au contraire, avec sa réponse de ce mûrier dans la mer, il leur dit qu'il ne marche pas dans la combine du toujours plus en matière de foi. Et il leur dit, à ses disciples soumis aux échecs et aux faiblesses et aux manques, il leur dit, votre foi est suffisante. Ne vous attardez pas sur la mesure de la foi, sur la musculature de la foi, sur le développement de la foi. Dans le royaume de Dieu, nous ne sommes ni comptables, ni géomètres. Et dans le royaume de Dieu, c'est Jésus qui parle, nous aimons même ce qui est petit et même plus petit que le petit. Et la foi est de cet ordre. Et il me semble que Jésus dit à ses disciples, comme Dieu à Gédéon, va avec la foi que tu as. Non, Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Mais Dieu nous dit, va avec la foi que tu as. C'est pleinement suffisant pour ta vie, pour relever les défis de ta vie. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la mesure de la foi, ce n'est pas le diamètre de ton biceps de la foi, ce n'est pas le niveau de mercure dans le thermomètre de la foi, mais ce qui est important, c'est l'objet de la foi, c'est la direction de la foi, c'est Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, importateur exclusif du royaume nouveau, parole de la vie éternelle, manifestation exceptionnelle de la grâce de Dieu. C'est ça qui est important. Et comme l'écrivait un commentateur, très joliment, la foi véritable est toujours un mouvement de repli vers le Seigneur. Sa force n'est jamais la sienne propre, mais toujours celle de Jésus-Christ. Elle est si petite qu'elle ne saurait rien attendre d'elle-même. C'est en riant d'elle-même qu'elle se met à l'œuvre. Et cet auteur, en parlant d'une foi qui se rit d'elle-même, introduit un élément extrêmement important dans cette notion de foi, c'est celle de l'humilité. Une foi humble, consciente de sa petitesse, de sa faiblesse, de son manque de foi, mais surtout une foi qui s'abandonne à Jésus, qui vient le réveiller au fond de la barque et qui lui dit « Je suis perdu, parce que ma peur est aussi grande que ma foi est petite. » Voilà la foi que Jésus aime voir parmi ses disciples, une foi qui ne cherche pas à se montrer ni à rouler des mécaniques, mais qui vient humblement lui demander son aide, son secours pour la vie. Une foi qui serait tous, tout, pardon, sauf mégalomaniaque, Une foi qui repose sur une relation avec lui, notre espérance dans ce monde, notre assurance pour la vie. On a l'exemple de foi de ce Pierre qui se jette dans l'eau à la rencontre de Jésus et il est plein, semble-t-il, de foi. Enfin, on ne sait pas très bien de quelle foi il s'agit. On va dire qu'il a confiance, mais c'est lorsqu'il perd le contact visuel avec Jésus et qu'il commence à regarder le vent, la mer, c'est-à-dire les circonstances de la vie, et peut-être surtout quand il commence à se poser des questions sur sa quantité ou sa taille, ou la taille de sa foi, où il se pose des questions, est-ce que ma foi est assez grande pour continuer à marcher sur l'eau ou pas? C'est là qu'il commence à s'enfoncer. Quand il commence à s'interroger sur sa quantité de foi et qu'il perd le contact visuel avec Jésus. Pour Pierre, disciple, comme les autres, comme nous autres, le secret de la foi, c'est de la garder petite et surtout de garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. L'auteur est celui qui mène ma petite foi à la perfection en lui. Et puis il y a dans l'histoire, dans l'évangile de Marc, cette histoire d'un père qui s'approche de Jésus pour qu'il guérisse son enfant et qui va dire cette parole qui a traversé 21 siècles. « Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité, de mon manque de foi, toujours avec le A avant le mot foi dans l'original, le A privatif. Je suis privé de foi. » Et c'est une phrase tellement paradoxale. On pourrait dire « Seigneur, je crois, mais j'y crois pas. » Et dans cet homme, traversé par des courants contraires, mais qui s'adresse à Jésus, Jésus, justement, trouve un lieu pour déposer sa grâce et sa guérison. À nous tous, disciples, chrétiens du XXIe siècle, Jésus, encore une fois, nous libère par sa réponse avec ce figuier fou là qui va se jeter dans la mer. Il nous libère de ce monde de performance, de ce monde de développement du potentiel humain, des ressources humaines, de la nécessité absolue du faire de chiffres. Il nous en délivre. Avec lui, les yeux fixés sur lui, la parole révélée de Dieu, nous voulons rester sourds, comme Ulysse dans l'Iliade, qui a peut-être fait un beau voyage, mais qui malgré tout s'attache au mât de son bateau pour résister au chant des sirènes tentatrices, aux sirènes d'aujourd'hui et d'alors, qui crient plus qu'elles ne chantent et qui aujourd'hui nous chantent la même litanie du toujours en faire plus, devenir des hommes et des femmes surdimensionnés, survitaminés, suréquipés comme les voitures d'aujourd'hui. Suréquipés, qu'est-ce que ça veut dire? Et il faut bien le noter que dans la chorale des sirènes, il y a une petite nouvelle, c'est la sirène de la spiritualité, qui a rejoint le chant des autres sirènes de ce monde, et elle chante la même partition, celle du toujours plus, en vouloir en faire toujours plus en matière de spiritualité. Mais Jésus nous ramène dans son royaume du grain de moutarde, un royaume fait de foi, d'espérance et d'amour, un royaume qui est appelé à s'étendre autour de nous et en nous, en toute humilité et en toute liberté. Celle du fils prodigue, qui après avoir voulu mener grande vie et mener grand train, retourne à la maison du Père et dans les bras du Père comme l'image de Rembrandt, une foi qui s'abandonne dans les mains de Dieu, une foi comme celle du colibri, le plus petit oiseau, mais qui fait un boulot fou. Où donc est votre foi? Nous dit Jésus. Elle est en toi et en toi seul, dit le disciple. Et vous, que dites-vous? Amen. J'invite les musiciens à s'approcher et on va chanter ensemble debout. Je crois en Jésus. Comme une confession de foi. Seigneur, je veux retrouver le lieu de ma foi. C'est toi et toi seul.